Alors, je reviens sur Saint Justin. Je ne sais plus très bien si je vous en avais déjà, si je vous avais déjà présenté le.
Oui,
on avait commencé. Et je vous avais même présenté la première apologie, donc celle qui est adressée à Saint. Voilà, à Antonin. Et alors, par contre, je ne sais pas si je vous avais lu les passages de l'apologie elle-même.
Vous avez dit que c'était une première apologie du jumpé de 3 à 65. Vous avez jumpé de 3 à 65.
Oui, c'est ça.
Ou alors on chante.
Voilà. Comment ? Là, j'en ai un. Alors. Donc, puisque nous avons des auditeurs lointains, je vais lire les textes. Alors, je crois que j'avais déjà parlé des trois premiers chapitres. Je ne sais plus si je les avais lus, les chapitres.
Si, vous les.
Voilà, d'accord. Alors, passons. Voilà. Alors, je vous rappelle donc la première partie. Il y a les 29 premiers chapitres, enfin, encore une fois, à chaque fois que je dis chapitre, hein, vous voyez bien que ce sont des paragraphes. C'est la défense du christianisme comme, contre l'accusation d'athéisme. Voilà. Si les chrétiens ne vénèrent pas les dieux, c'est qu'ils savent que ce ne sont que des démons qui ont profité de la peur et des calamités pour se faire reconnaître par les hommes comme divins. Et donc Jésus, en venant dans le monde, lui, le vrai Dieu, a démasqué cette imposture, a démasqué les démons, et donc qui cachaient derrière les dieux du polythéisme. Ensuite, on a du chapitre 30 au chapitre 50, une démonstration que Jésus n'est pas un magicien, mais bien celui qui était attendu par les hommes, Justin montre que cette attente était une attente réelle, puisqu'il prend l'exemple d'Israël qui l'attendait justement. Puis, on a dans les chapitres suivants la description de la liturgie baptismale et de l'Eucharistie. Et c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est encore une fois l'un des plus anciens témoignages des sacrements fondamentaux du christianisme. Donc milieu du deuxième siècle. Hein. Alors c'est le paragraphe 65 là que vous voyez sur.
Il a été canonisé ce Justin.
Oui, il a été canonisé. Parce qu'il est mort martyr.
Il est moins connu que Saint-Ambroise.
Oui, c'est ça. Parce que les apologètes, en fait, ne sont pas vraiment des théologiens. Ce sont les premiers théologiens, parce que ce sont les premiers à appliquer la raison sur le donné de foi pour la rendre intelligible et aux chrétiens, mais surtout aux non-chrétiens, juifs ou païens. Alors, je vous lis les passages, ces passages que j'avais justement reproduits à cause de l'antiquité des sacrements. Il dit « Revenons à nous », puisqu'on était parti parler notamment des... où il avait fait toute une démonstration pour montrer que Jésus était bien Dieu. « Revenons à nous. Quand celui qui s'est associé à notre foi et à notre croyance... a reçu l'ablution dont nous avons parlé plus haut, donc c'est le baptême, nous le conduisons dans le lieu où sont rassemblés ceux que nous nommons nos frères. Là commencent les prières ardentes que nous faisons pour l'illuminer, pour nous-mêmes et pour tous les autres. C'est le rite du photismos, de l'illumination, pour nous-mêmes et tous les autres, dans l'espoir d'obtenir, avec la connaissance que nous avons de la vérité, la grâce de vivre dans la droiture des œuvres et dans l'observance des préceptes et de mériter ainsi le salut éternel. Quand la prière est terminée, nous nous saluons tous d'un baiser de paix. Ensuite, on apporte à celui qui est le chef des frères du pain, de l'eau et du vin. Il les prend et célèbre la gloire et chante les louanges du Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit et fait une longue action de grâce pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Les prières et l'action de grâce terminées, tout le peuple s'écrie « Amen, Amen » en langue hébraïque, signifie « Ainsi soit-il ». Quand le chef des frères a fini les prières et l'action de grâce, que tout le monde y a répondu, ceux que nous appelons diacres distribuent à chacun des assistants le pain, le vin et l'eau sur lesquels les actions de grâce ont été dites et ils en portent aux absents. Oui, enfin, pardon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le baptême s'est déjà fait avant. Hein, il a déjà décrit avant. Et là, il décrit l'Eucharistie. Et vous voyez que certains thèmes restent dans... sont hérités des langues de l'hébreu. Alors, ce qui explique qu'on les ait gardés d'ailleurs aussi dans l'Eucharistie aujourd'hui. Alors il explique, nous appelons cet aliment Eucharistie et personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu l'ablution, donc l'ablution c'est le baptême, pour la rémission de ses péchés et sa régénération, et s'il ne vit selon les enseignements du Christ. Car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain ordinaire et une boisson commune, mais de même que par la parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, ayant été fait chair, a pris sang et chair pour notre salut, de même aussi cet aliment, qui par l'assimilation doit nourrir nos chairs et notre sang, est devenu, par la vertu de l'action de grâce, contenant les paroles de Jésus-Christ lui-même, le propre sang et la propre chair de Jésus incarné. Telle est notre foi. Donc là, il parle de la consécration avec les paroles même de Jésus sur le pain et le vin. Vous voyez donc ce que certains appellent l'embolisme de la prière eucharistique. On insère dans la trame de cette action de grâce une citation des évangiles ou de la première aux Corinthiens qui sont les paroles consécratoires. Ensuite, les apôtres, dans leurs écrits qu'on nomme évangiles, nous ont appris que Jésus-Christ leur avait recommandé d'en agir de la sorte. Lorsqu'ayant pris du pain, il dit « Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps. » Et semblablement, ayant pris le calice et ayant rendu grâce, « Ceci est mon sang, » ajouta-t-il. Et il le leur distribua à eux seuls. Les démons n'ont pas manqué d'imiter cette institution dans les mystères de Mitra, car on apporte à l'initié du pain et du vin sur lequel on prononce certaines paroles que vous savez ou que vous êtes à même de savoir.
Alors que disent les protestants face à des textes comme ça?
Ah, ben oui,
ils sont pareils.
Oui, oui, oui. Alors, il faut dire que globalement, ils font pareil, quoi. Ils ont hérité, mais seulement pour eux, ce n'est pas sacramentel. Hein. Vous voyez, par exemple, encore un luthérien, il pourrait penser que c'est bien le propre sang, la propre chair de Jésus-Christ. Mais les calvinistes, non. Hein. Pour eux, c'est juste un souvenir, un mime. Un mime qui n'est pas sacramentel, qui ne fait pas revivre la réalité.
Est-ce que le terme mémoire fait vivre la réalité?
Alors, le terme mémoire est un terme qui s'enracine dans l'expérience d'Israël et qui est plus qu'un rappel historique. Hein. C'est pas simplement... C'est une actualisation d'un événement du passé à travers un rite du présent. Et en fait, par exemple, les Juifs qui sortent c'est le père Giraudeau qui est un professeur de sacramentaire à la Grégorienne qui dit ça, ben, après plein d'autres. Les Juifs, quand ils sortent d'Égypte, bon, ils font une expérience de libération. Et ensuite, ils reçoivent l'ordre de réitérer le geste de la mendication de l'agneau tous les ans à Pâques, voilà, pour se remémorer la sortie d'Égypte, mais aussi, et c'est là le caractère pré-sacramentel, si on peut dire, du rite juif, se actualiser l'expérience de libération que leur père avait vécue. Les pères ont été libérés de l'oppression égyptienne, mais ils étaient quand même assez intelligents aussi pour comprendre que Dieu les libérait de plus que ça. Et les fils, si on peut dire, en célébrant la Pâque annuelle, sous une forme rituelle, eh bien, ils font une expérience de libération spirituelle. Alors, autrement dit, la Pâque qui s'est déroulée une fois pour toutes dans l'histoire, elle est actualisée tous les ans pour les générations qui suivent. Et parallèlement, si on fait le parallèle, un parallélisme, si vous voulez, progressif, l'événement qui a eu lieu une fois pour toutes de l'institution de l'Eucharistie, où Jésus dit la même chose, faites ceci en mémoire de moi, qui reprend, donc qui est, on pourrait dire, la dernière étape de l'actualisation du sacrifice juif, qui va trouver sa nouveauté dans le sacrifice du lendemain, le vendredi saint, pour devenir le point de départ d'une chaîne d'itération, encore une fois, de rituel du geste initial, avec aussi l'actualisation, cette fois-ci, du sacrifice du vendredi saint. Évidemment, on n'actualise pas. Alors, c'est ça le problème des protestants, c'est que, enfin, surtout les calvinistes, c'est qu'ils actualisent, enfin, ils actualisent entre guillemets, pour eux, ils font mémoire du jeudi saint, ils font mémoire de la scène. Mais en fait, globalement, la scène, ça n'apporte pas grand-chose. La scène, c'est juste, si vous voulez, le crochet pour accrocher le Nouveau Testament à l'Ancien. Et bien montrer qu'on va continuer dans cette ligne de mémoire actualisation, mais à un degré supérieur, parce que ce qu'on va actualiser, c'est évidemment le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Parce que vendredi saint, ça serait intéressant, mais enfin, je veux dire, si Jésus n'est pas ressuscité, on y perd quand même beaucoup. Hein. C'est...
C'est moins bien.
C'est... Donc...
Il le croit.
Voilà, enfin, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche saint, ça fait vraiment une seule chose, quoi. C'est les deux faces de la médaille. Hein. On peut pas... Si vous coupez une médaille en deux, vous avez encore deux faces. Hein. C'est indissociable, non? C'est dissociable pour les Thomas et autres apôtres qui se disent il est peut-être mort et pas ressuscité, mais dans le plan divin, c'est indissociable. Hein, celui qui est mort ressuscite. Donc, et à partir de là, on a cette actualisation du nouveau rite, mais qui se prolonge l'ancien quand même, puisque Jésus a voulu prendre justement ce qui était déjà rituel dans l'ancien. Enfin, une partie de ce qui était rituel, d'ailleurs qui n'était pas l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est l'agneau. Et là, l'agneau, il a disparu. Hein. En fait, on utilise des éléments qui sont secondaires, finalement, dans le rituel juif. Donc, voilà. Et alors, évidemment, alors quand Justin dit « Les démons n'ont pas manqué d'imiter cette institution dans les mystères de Mitra », ils n'ont parfois imité un peu avec de l'avance. Hein. On dira que les mystères de Mitra ne sont pas postérieurs, ils sont plus anciens. Ils ne sont pas si anciens que ça non plus, mais vous savez qu'on mettait ça, les mystères de Mitra, on a un mitréum justement sous la basilique Saint-Clément à Rome qui est intéressant aussi. Et en fait, ils ont le baptême et l'Eucharistie globalement dans la même cérémonie, puisque on mettait des jointes sous une sorte de grillage, voilà, et puis on immolait un taureau dont le sang servait d'ablution aux initiés. Et puis ensuite, comme me dit Justin, ils avaient aussi un repas fraternel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaissait les sectes religieuses à Rome. J'ai oublié le terme technique, mais c'est le repas fraternel, le repas des, enfin on pourrait dire c'est comme un repas de confrérie, quoi, de confrérie religieuse. Elles avaient des repas comme ça. Voilà.
Un banquet.
Oui, et du coup les chrétiens par l'Eucharistie, ils sont passés pour une confrérie religieuse, une de plus. Voilà.
Mais eux, les obsèques n'étaient pas persécutés,
c'est ça ? Non, parce que finalement, tous les autres, finalement, étaient prêts à sacrifier. Comme ils étaient plus ou moins polythéistes, ça ne les dérangeait pas vraiment de faire un sacrifice à... Voilà. ils n'étaient pas très dérangés pour faire un sacrifice à l'empereur, symbole de l'État. Alors, l'empereur divinisé pour les gens les plus simplets, et puis l'empereur symbole de l'État pour les autres, mais ça les dérangeait pas. Les chrétiens ont été... l'institution romaine se fichait totalement de ce que pouvaient croire les gens. Ça n'intéressait pas ce qu'ils pouvaient penser. La seule chose qui intéressait Rome, c'est qu'ils pensent que leur religion soit pas contraire au salut de l'État. Et pour bien s'en convaincre, que tout le monde veuille bien faire un sacrifice à l'empereur. Et on n'en demandait pas tellement plus. Hein. Alors, ensuite, Justin continue. Après l'assemblée, nous nous entretenons les uns les autres dans le souvenir de ce qui s'y est passé. Si nous avons du bien, nous soulageons les pauvres et nous nous aidons toujours et dans toutes nos offrandes, nous louons le Créateur de l'univers par Jésus-Christ, son Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, quand même, c'est quand même très clair. Hein, la Trinité, on n'a quand même pas attendu le premier concile de Nicée pour la confesser. Hein. Et Jésus-Christ, son Fils, ce n'est pas Jésus-Christ, son démiurge, Jésus-Christ, son ange, Jésus-Christ, son nom. C'est Jésus-Christ, son Fils. Et alors, vous voyez que le repas, l'Eucharistie, est suivi d'un repas qui est le repas de la confrérie. Et en même temps, vous avez vu un peu plus haut que les diacres sont envoyés pour porter la communion aux malades ou aux absents. Alors, Justin continue. Il faut d'ailleurs que je... Non, c'est bon. Après l'assemblée, bon, etc., le jour du soleil, comme on l'appelle, donc le dies de solis des Romains, tous ceux qui habitent les villes ou les campagnes se réunissent en un même lieu. Donc vous voyez, le jour du soleil, hein, c'est... Alors bien sûr, vous me direz, le jour commence le soir. Mais en fait, ils se réunissent déjà au milieu du deuxième siècle, au petit matin, plus le soir. Le jour du soleil, comme on l'appelle, tous ceux qui habitent les villes ou les campagnes se réunissent dans un même lieu. Et on lit les récits des apôtres ou les écrits des prophètes. Donc les récits des apôtres, ce sont les évangiles. Les écrits des prophètes, c'est l'Ancien Testament, selon le temps dont on peut disposer. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour exhorter à l'imitation de ses sublimes enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions, et comme nous l'avons dit, la prière terminée, on apporte du pain, du vin et de l'eau, et celui qui préside fait des prières et les actions de grâce avec la plus grande ferveur.